Chapitre 35. Madame Fanny Dashwood avait une telle confiance dans le jugement de son mari que dès le jour suivant, elle vint en personne faire visite à Madame Jennings et à Lady Middleton. Cette confiance ne fut pas trompée. La vieille amie de ses belles sœurs, quoique un peu commune, lui plut assez par ses prévenances. Lady Middleton l'enchanta complètement par son bon ton et son élégance. Cet enchantement fut réciproque. Il y avait entre ces deux femmes une sympathie de froideur de cœur, de petitesse d'esprit, qui devait nécessairement les attirer l'une vers l'autre. Elles avaient la même insipidité dans la conversation, la même nullité d'idées. Seulement, Fanny avait un fond d'avarice et d'envie qui se manifestait en toute occasion, et Lady Middleton une indifférente parfaite pour tout le monde, excepté pour ses enfants. Madame Dashwood l'eût plus mieux qu'une autre femme, mais sans qu'elle eût pu dire pourquoi. Mais ce n'était pas de l'amitié, elle en était incapable. Fanny ne réussit pas aussi bien auprès de Madame Jennings, qui lui trouva l'air fier, impertinent, et qui vit qu'elle ne faisait aucun frais pour plaire, qu'elle n'avait rien d'aimable ni d'affectueux, même avec ses charmantes belles-sœurs, à qui elle parlait à peine. Elle remarqua qu'elle ne s'informait point de la santé de Maria, qu'elle devait trouver changée. En effet, elle ne disait rien à Elinor, ne témoignait aucun intérêt pour leur plaisir, leur demandait à peine d'un air glacé et sans écouter la réponse des nouvelles de leur mère. Elle ne fut avec elle qu'un quart d'heure et resta au moins 7 minutes en silence. La bonne et vive Madame Jennings en fut indignée et ne se gêna pas pour le dire lorsque Fanny fut partie. Elinor aurait fort désiré d'apprendre d'elle si Edward était à Londres, mais Fanny n'avait garde de prononcer devant elle le nom de son frère, jusqu'à ce que le mariage de l'un avec Miss Morton et de l'autre avec le colonel Brandon les eût séparés à jamais. Elle les croyait encore trop attachés l'un à l'autre pour ne pas trembler tant qu'ils seraient libres, et son étude continuelle était de chercher à les éloigner de toute manière. Elle ne parla donc point de son frère, mais Elinor apprit d'un autre côté ce qu'elle voulait savoir. Lucie vint réclamer sa compassion sur le malheur qu'elle éprouvait de n'avoir point vu encore son cher Edward, quoiqu'il fût venu à Londres avec M. et Mme Dashwood pour se rapprocher d'elle. Mais il n'osait venir la voir chez ses parents d'Holborn, qui ne le connaissaient point, et malgré leur mutuelle impatience, tout ce qu'il pouvait faire pour le moment, c'était de s'écrire tous les jours. Elinor, qui ne pouvait se fier tout à fait à la véracité de Lucie, et qui voyait le but de ses confidences, doutait encore. Mais elle ne tarda pas d'avoir la conviction qu'Edward était véritablement à la ville. Deux fois, en rentrant à la maison, elle y trouva sa carte. Par une contrariété naturelle au cœur humain, elle fut bien aise qu'il eût pensé à venir, et plus aise encore de n'y avoir pas été. M. John Dashwood ne perdait pas de vue le mariage supposé de sa sœur aînée avec le colonel Brandon. Ainsi qu'il l'avait dit, il voulut l'inviter à dîner chez lui. Il ne fallait pas moins comme motif de cette importance pour les décider, lui et sa femme, à cette dépense. Fanny y consentit cette fois, dans l'espoir qu'Elinor en épouserait un autre que son frère, et pensant qu'elle serait invitée à son tour aux fêtes de Sir George, à ses dîners qui étaient en grande réputation, tant pour le talent de son cuisinier que par l'élégance du service, c'était donc semé pour recueillir. En effet, peu de jours après que la connaissance fut faite, on reçut une invitation en forme pour dîner le jeudi suivant chez Madame John Dashwood à Harley Street, où ils avaient loué pour 3 mois une jolie maison. Ses deux belles sœurs, Madame Jennings, les Middleton et M. Palmer acceptèrent. Charlotte, sur le point d'accoucher, ne sortait plus. Le colonel Brandon fut surpris d'être du nombre des convives, ne connaissant pas du tout Madame Dashwood et n'ayant vu qu'un instant son mari, qui ne lui avait fait qu'un accueil demi-poli. Mais il aimait trop à être avec Mesdemoiselles Dashwood pour en refuser l'occasion. Madame Ferrars devait aussi en être, mais on ne nomma point ses fils et Elinor n'osa s'informer s'ils y seraient. Quelques mois auparavant, Elle aurait été vivement émue de la seule pensée de se rencontrer avec la mère d'Edward et de lui être présentée. Actuellement, elle pouvait la voir, relativement à elle-même, avec une complète indifférence, elle le croyait du moins, et rejeta entièrement sur la curiosité l'intérêt qu'elle mettait à la connaître. Cet intérêt, mais non son plaisir, acquit un degré de plus en apprenant que Lucy Steeles serait aussi de la partie. D'après ce qu'elle savait de la hauteur de Madame Ferrars, la bonne Elinor, sans aimer Lucy, ne pouvait s'empêcher de la plaindre d'avance de la manière dont elle en serait traitée, ce qui devait lui être d'autant plus sensible qu'elle s'y était volontairement exposée. Dès que celle-ci apprit ce dîner, elle se hâta de rappeler une invitation assez vague que Lady Middleton avait faite aux deux sœurs Steeles lorsqu'elles se séparèrent à Barton, de passer une quinzaine de jours chez elle à Londres. Lady Middleton l'avait oubliée, mais l'adroite Lucy porta à la petite Célina un joli panier plein de bonbons et lui souffla de demander à sa maman que ses bonnes amies Steeles vinssent demeurer avec elle. Les demandes de Célina n'étaient jamais refusées. Une heure après, la voiture de Lady Middleton arriva à Holborn avec une prière instante aux demoiselles Steeles de se rendre sans délai au désir de Célina, avant que la charmante petite pleurât, ce qui lui faisait un mal affreux. Une fois établie chez leurs nobles parents, elle devait être invitée avec eux, et elles avaient un droit de plus de l'être chez Madame Dashwood, à qui elle n'était pas entièrement inconnue, au moins de nom, puisque leur oncle avait été instituteur de son frère. Mais il suffisait qu'elles fussent logées chez Lady Middleton et qu'elle les protégeât pour être bien reçues. Lucy était au comble de la joie. Elle allait enfin être introduite dans cette famille qui devait être un jour la sienne. Elle pourrait satisfaire sa curiosité, examiner, juger des difficultés qu'elle aurait à surmonter, avoir une occasion de lui plaire. Elle n'avait pas encore éprouvé dans sa vie un aussi grand plaisir qu'en recevant la carte de Madame Dashwood. Mais ce plaisir aurait été diminué de moitié si elle n'eût joui d'avance du chagrin de sa rivale. Elle se hâta d'aller lui faire part de son bonheur. Elinor eut beaucoup de peine à lui cacher ce qu'elle ressentait, et n'y réussit peut-être pas, car la joie de Lucy augmenta en voyant un nuage sur le front d'Elinor lorsqu'elle lui dit qu'Edward y serait sûrement. « À moins, ajouta-t-elle, qu'il ne craigne de se trahir. Il lui était impossible, lorsque nous étions ensemble, de cacher l'excès de son affection, et cette raison l'empêchera peut-être d'y venir. » Quelque cruel que fût ce motif pour la pauvre Elinor, elle en désirait au moins l'effet. Voir Edward pour la première fois depuis leur séparation, et le voir avec Lucy, elle croyait à peine pouvoir supporter son aspect. Ce jeudi, si désiré, si redouté, qui devait mettre les deux jeunes rivales en présence de la future belle-mère, arriva. Elinor avait acheté la veille une charmante toque en fleurs avec des plumes blanches dont elle voulait se parer ce jour-là. Lucy, qui venait continuellement chez Madame Jennings pour y voir sa chère amie, se trouva là quand on l'apporta. Elinor l'essaya. Elle lui essayait à ravir, et malgré toute sa raison, elle ne fut point fâchée de le trouver elle-même. Le jeudi matin, Lucy arriva, plus caressante, plus tendre qu'à l'ordinaire. Elle avait honte, dit-elle, de ce qu'elle venait lui demander, mais sa chère Elinor était si fort au-dessus de ses bagatelles, elle avait si peu besoin de parure, elle était si indifférente sur ce moyen de plaire en ayant tant d'autres, et pour cette grande occasion, il était si essentiel à Lucy de les employer tous. Elle devait à Edward de se faire aussi jolie que possible la première fois qu'elle paraissait devant sa mère. Si Edward lui-même s'y trouvait, c'était un motif de plus qu'Elinor devait comprendre. Elle espérait donc de sa complaisance, de son amitié, qu'elle voudrait bien renoncer à la jolie toque qui la coiffait si élégamment et la lui prêtait. Elle avoua en rougissant qu'elle n'était pas assez en fond dans ce moment pour s'en acheter une semblable. « Et, ajouta-t-elle, j'ai compté sur la bonté de ma chère Elinor, car sans cela, j'eusse demandé une semblable toque à crédit. » Mademoiselle Dashwood frémit en pensant qu'elle avait failli arriver au dîner coiffée exactement comme Lucy, et se trouva heureuse de lui céder une si jolie toque, qu'elle regrettait bien un peu. Cette dernière s'en empara bien vite, également enchantée qu'elle fût sur sa tête et non sur celle d'Elinor. Bon Dieu, ma chère, lui dit-elle, plaignez-moi, je vous en conjure, vous seule saurez ce que je souffre. À peine puis-je marcher tant je suis émue en pensant que, dans quelques heures, je verrai la personne dont tout mon bonheur dépend, celle qui doit être ma mère. Mettez-vous à ma place. Mais c'est impossible, il faut aimer Edward comme je l'aime pour comprendre l'état où je suis. Elinor aurait pu diminuer cette émotion ou la faire changer de nature en lui disant que vraisemblablement c'était la belle-mère de Miss Morton plutôt que la sienne qu'elle allait voir. Elle ne le dit pas, mais elle lui assura avec tant de sincérité qu'elle la plaignait infiniment que Lucy en fut presque piquée. Elle espérait être pour Mademoiselle Dashwood un objet d'envie plutôt que de compassion. Enfin, elles arrivèrent chez Madame John Dashwood. Sa mère, au haut bout du salon, étalait dans un grand fauteuil sa chétive personne et saluait à peine avec un air de protection. Elle était petite, maigre, se tenait extrêmement droite, avait de la raideur dans tous ses mouvements. Sa physionomie était sombre, ou du moins très sérieuse. Elle ne se permettait de sourire que lorsqu'un sarcasme sortait de sa bouche, son teint était brun tirant sur le jaune, ses traits assez petits et sans beauté. Une contraction habituelle de ses sourcils empêchait sa physionomie d'être complètement insignifiante, mais lui donnait en échange une forte expression d'orgueil et même de méchanceté. Elle ne parlait pas beaucoup, contre sa règle générale, elle proportionnait le nombre de ses paroles à celui de ses idées, et dans le peu de syllabes honnêtes qui lui échappèrent à l'arrivée des hôtes de sa fille, qui lui furent présentés, il n'y en eut pas une adressée aux demoiselles Dashwood qu'elle regardait intérieurement avec dédain et malveillance. Cette conduite ne pouvait plus influer sur le bonheur d'Elinor. Peu de mois auparavant, elle en aurait été excessivement blessée, affligée. Mais il n'était plus au pouvoir de Madame Ferrars de produire cet effet sur elle. Et la différence de sa manière avec les demoiselles Steeles, dont le seul but était d'humilier encore Mesdemoiselles Dashwood, l'amusa au contraire beaucoup. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire de l'air affable et presque amical avec lequel la mère et la fille distinguèrent Lucy surtout et des peines que celle-ci se donnait pour leur plaire, peines qui allaient jusqu'à la bassesse. Madame Ferrars avait un vieux petit bichon, seul être qu'elle pût aimer et qui ne la quittait point. Lucy le caressait exactement comme elle caressait Célina Middleton. Elle s'extasiait sur cette charmante petite créature, allait lui ouvrir la porte s'il voulait sortir, et l'attendait pour le rapporter à sa maîtresse. Elle admirait l'éclat du beau satin cramoisi de la robe de Madame Ferrars et la beauté de ses poings. Elle allait chauffer le coussin qui était sous les pieds de cette dame. Quand Lady Middleton s'éloignait un peu, elle déclarait que Madame John Dashwood était la plus belle femme qu'elle eût vue de sa vie, et qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère, etc. Enfin, à force de flatterie, elle se rendit si agréable à l'une et à l'autre que Madame Ferrars, qui ne s'humanisait jamais avec ceux qu'elle regardait comme ses inférieurs, lui adressa quelques mots obligeants, déclara que ces jeunes Miss Steeles avaient le ton de la meilleure éducation et que bien des demoiselles qui se croyaient des modèles ne s'en approchaient pas. Elle lança en même temps un regard sur Elinor, qui riait en elle-même en voyant combien la faveur et les grâces de Madame Ferrars étaient mal placées, et en songeant qu'elle se changerait promptement en fureur si elle se doutait que cette jeune audacieuse qu'elle trouvait si aimable, si séduisante, parce qu'elle n'était pas Elinor, pensait à épouser son fils. Fanny faillit à lui en donner l'idée. « Mesdemoiselles Steeles, dit-elle à sa mère, sont les nièces de M. Pratt, chez qui Edward a étudié. »« Vraiment ?» dit Madame Ferrars en relevant le sourcil. « Vous connaissez donc mon fils ?»«
Très peu, madame, » dit Lucy avec assurance. « Nous ne demeurons pas auprès de mon oncle. »«
Tant mieux pour vous, » dit Madame Ferrars avec humeur. « Il n'entend rien à l'éducation. » Lucy redoubla ses flatteries, qui lui réussirent de nouveau. Elle était au troisième ciel, en se voyant ainsi distinguée, et ne daignait plus parler à Elinor. La grosse Anna même se rengorgeait avec fierté en pensant qu'elle était la sœur de la future belle-fille de Madame Ferrars. Maria était encore plus rêveuse, plus silencieuse qu'à l'ordinaire.
À sa tristesse habituelle se joignait le chagrin qu'elle supposait à Elinor de ne pas voir Edward, et celui qu'elle en ressentait elle-même. Elle l'aimait déjà comme un frère favori, et bien plus que celui qu'elle tenait de la nature. L'homme qui devait faire le bonheur de sa chère Elinor était au premier rang dans son cœur. Elle était venue presque avec plaisir à ce dîner, malgré son aversion pour la plupart des convives, dans l'unique espoir de voir Edward. Et cet espoir était trompé, Edward n'y était pas. Elle regardait sa sœur avec un étonnement douloureux et ne pouvait comprendre qu'elle eût la force de supporter une mésaventure aussi cruelle. Le colonel Brandon, placé entre les deux sœurs, se serait trouvé fort heureux si la politesse fastidieuse du maître et de la maîtresse de maison lui avait laissé le temps d'en jouir. Les meilleurs mets, les meilleurs vins lui étaient adressés. M. Dashwood lui demandait son opinion sur tout et s'y rangeait à l'instant. Dès qu'il y avait un moment de silence entre lui et ses voisines, il disait à ses sœurs « Allons, mesdemoiselles, parlez à votre aimable voisin, ne souffrez pas qu'il s'ennuie. » On aurait dit que la fête était pour lui seul, et il ne pouvait comprendre le but de ces prévenances qui le fatiguaient. Le dîner était magnifique, ainsi que les donnent ceux qui invitent rarement. Le nombre des plats, celui des laquais, contrastait avec cette pauvreté dont il s'était plaint à sa sœur. Elle ne se faisait sentir que dans la conversation. Mais il est vrai que de ce côté-là, le déficit était considérable, tant chez les maîtres du logis que chez la plupart des convives. Manque de raison, d'esprit, soit naturel, soit cultivé, manque de goût, de gaieté, enfin de tout ce qui rend un repas agréable. Quand les dames, suivant l'usage, se retirèrent après dîner pour le café, cette pauvreté fut encore plus en évidence. Les hommes mettaient au moins quelques variétés dans le discours, quelques mots de politique, de chasse, d'agriculture, mais il n'en fut plus question. On avait épuisé avant dîner l'article des meubles et des parures. À la grande satisfaction de Lucie, sa toque avait été fort admirée, et la simple coiffure d'Elinor, qui n'était que ses jolis cheveux bruns retenus par un fil de perles, regardait avec dédain, en sorte qu'après une longue digression sur la bonté du café, le seul sujet d'entretien fut de comparer la grandeur de Henry Dashwood et celle de William, le second fils de Lady Middleton, qui était à peu près du même âge. Si les enfants avaient été là, la question aurait été promptement décidée en les mesurant. Mais il n'y avait que Henry, et il fallut s'en rapporter à l'opinion des témoins. Celle des demoiselles Steeles, qui passaient leur vie avec les petits Middleton, fut surtout demandée par leur mère, et de cette manière qui veut dire « décidez en ma faveur ». N'est-ce pas, Lucie, que William a au moins deux doigts de plus que Henry Dashwood ? Lucie fut très embarrassée. À qui allait-elle faire sa cour ? Enfin, l'amour l'emporta sur l'amitié, et après avoir un peu décidé, elle dit qu'elle croyait, qu'il lui semblait que M. Henry avait quelques lignes de plus. Lady Middleton exprima par un regard son mécontentement, mais Lucie fut dédommagée par un doux sourire de la sœur d'Edward. Elinor trouva sa flatterie d'autant plus méprisable qu'il était évident que William était beaucoup plus grand que son neveu. Elle le dit quand on lui demanda son avis. Fanny et Madame Ferrars répondirent avec aigreur qu'elle se trompait. Et Maria déplut à tout le monde en disant qu'elle n'y avait fait nulle attention. Bientôt, une autre bagatelle mit en scène la vivacité de sentiments et l'irritabilité de ses nerfs. Avant de quitter Norland, Elinor avait peint à sa belle-sœur de charmants écrans de cheminée. Ils venaient d'être montés dans le dernier goût. Les hommes étaient rentrés au salon et entouraient le feu. John Dashwood, allant toujours à son but, en prit un et le montra au colonel. « Voyez, lui dit-il, c'est ma sœur Elinor qui a peint cela. Vous, qui êtes un homme de goût, vous les admirerez. Je ne sais si vous connaissez son talent pour le dessin. Elle passe généralement pour en avoir beaucoup. » Le colonel, sans être grand connaisseur en peinture, les admira infiniment. La curiosité générale fut excitée et les écrans passèrent de main en main. Lorsqu'ils furent dans celle de Madame Ferrars, qui ne s'y entendait pas et ne pouvait se résoudre à louer Elinor, elle les fit passer à sa voisine sans dire un seul mot d'éloge. « Ils sont peints par Mademoiselle Dashwood l'aînée, ma mère, » dit Fanny. « Ne les trouvez-vous pas très jolis ?» Elinor, surprise de la courtoisie de sa belle-sœur, lui en savait gré, mais sa reconnaissance ne fut pas de longue durée. Fanny ajouta « Regardez-les, maman, voyez si ce n'est pas à peu près le même genre de dessin que ceux de Mademoiselle Morton, mais celle-ci peint encore plus délicieusement. le dernier paysage qu'elle a fait est vraiment très remarquable. « Extrêmement beau, » dit Madame Ferrars. « Elle excelle dans tout ce qu'elle fait et rien ne peut lui être comparé. Mais aussi, elle a une éducation si brillante, tant de talents naturels. » Maria, la sensible, la vive Maria, ne put supporter ce qu'elle regarda comme un outrage à sa sœur. Elle était déjà très irritée du ton et de la manière de Madame Ferrars, mais de tels éloges à une autre aux dépens d'Elinor provoquèrent son ressentiment. Quoiqu'elle n'eût encore aucune idée des projets sur Mademoiselle Morton, mais cédant, comme à son ordinaire, à son premier mouvement, elle dit avec vivacité « Voilà, en vérité, une singulière manière de voir et d'admirer les ouvrages de ma sœur. En faire un objet de comparaison pour les rabaisser, c'est du moins peu obligeant. Qui est cette demoiselle Morton à qui personne ne peut être comparé? À propos de quoi est-il question d'elle et de ses talents? Qui intéresse-t-elle ici? Et mon Elinor nous intéresse tous. » Alors, prenant les écrans des mains de sa belle-sœur et les montrant encore au colonel, « Il faut, dit-elle, n'avoir pas le moindre goût, le moindre sentiment du beau pour ne pas les admirer et pour penser à autre chose quand on les voit. » Madame Ferrars rougit de colère, ses petits yeux s'enflammèrent, ses sourcils s'élevèrent d'un demi-pouce et se touchèrent. « Je croyais, dit-elle, que tout le monde ici savait que Miss Morton est la fille de feu Lord Morton. J'oubliais que mesdemoiselles Dashwood ne sont jamais venues à Londres et ne peuvent connaître le grand monde. » Fanny avait aussi l'air très courroucée et son mari était tout effrayé de l'audace de Maria. Il s'approcha d'elle, l'amena dans l'embrasure de la fenêtre et lui dit à voix basse « Est-ce qu'Elinor ne vous a pas dit qu'Edward doit épouser Miss Morton? Vous auriez mieux fait de vous taire. »« Edward, épouser Miss Morton ?» s'écria Maria. « Jamais, jamais, c'est impossible !» Et, poussée par son sentiment pour sa sœur chérie, ainsi méprisée et rejetée par toute une famille qui devait l'adorer, elle vint s'asseoir à côté d'elle, passant un bras autour de son cou, et posant sa joue contre la sienne, elle lui dit à l'oreille « Chère Elinor, ne souffrez pas que de tels gens aient le pouvoir de vous rendre malheureuse. Ne craignez rien, Edward ne pense pas ainsi. Je le connais, j'ose vous répondre de sa fidélité. En dépit d'eux, de leurs projets, il n'aime, il n'épousera que vous. » Elinor, touchée de l'affection de sa sœur, mais désolée des preuves qu'elle lui en donnait dans ce moment, la conjura de se calmer, de se taire, tandis qu'elle-même pouvait à peine retenir les larmes qui remplirent ses yeux au propos de Maria. Celle-ci les sentit sur sa joue. « Tu pleures !» lui dit-elle. « Les méchants font pleurer mon Elinor !» Alors elle fondit en larmes. L'attention de chacun fut excitée. Tout le monde eut l'air consterné. Le colonel Brandon, qui depuis le commencement de cette scène avait eu les yeux attachés sur Maria, l'admirait bien plus qu'il ne la blâmait. Ce cœur si brûlant, cette sensibilité si active pour ce qu'elle aimait autant que pour elle-même, l'attachait toujours davantage à cette jeune personne. Lorsqu'elle éclata en pleurs et en sanglots, il se leva, vint près d'elle presque involontairement, prit sa main qu'il serra entre les siennes. Elinor soutenait sur son sein la tête de sa sœur et ne pensait plus à Edward. Madame Jennings disait « Pauvre enfant, pauvre petite, la moindre chose attaque ses nerfs !» et elle lui faisait respirer son flacon de sel. Madame Ferrars levait les épaules en parlant à sa fille. Lady Middleton regardait avec son air glacé, M. Palmer bâillait près du feu, en tenant les malheureux écrans, cause première de ce trouble. Les deux Steels riaient et chuchotaient dans un coin. Sir George était furieux contre le traître Willoughby, seul auteur, disait-il, de cette faiblesse de nerfs, et s'établissant entre les deux petites cousines Steels, qui étaient encore ses favorites, il leur conta toute l'affaire, qu'elle savait aussi bien que lui, en s'emportant contre l'homme abominable qui mettait une fille charmante dans cet état. Au bout de quelques minutes, Maria fut un peu remise. Elinor voulait la faire passer dans une autre pièce, mais Madame Dashwood dit qu'il n'y en avait point de libre, que l'attaque de nerfs une fois passée, Maria serait aussi bien au salon. Elle resta donc à côté d'Elinor et sans dire un mot de la soirée. « Pauvre Maria !» disait son frère à voix basse au colonel Brandon. « Elle n'a pas une aussi forte santé que sa sœur. Elle est très nerveuse, au lieu qu'Elinor n'est jamais malade. Je suis sûre qu'elle n'a pas coûté une guinée en médecin depuis qu'elle est au monde. » Mais la pauvre Maria, sa santé est détruite aussi bien que sa beauté. C'est sans doute ce dernier point qui l'afflige. C'est bien naturel, en vérité. Si jeune encore. Pourriez-vous croire qu'il y a peu de mois qu'elle était belle à ravir, presque aussi belle qu'Elinor? À présent, quelle différence! Elinor est charmante et ne changera jamais. C'est un genre de beauté qui sera toujours le même, je puis en répondre.
Je l'espère, dit le colonel, et désire que Mademoiselle Maria retrouve bientôt ses charmes.
Hélas, elle n'en avait encore que trop pour lui, et jamais elle ne lui avait paru aussi intéressante, aussi digne de toute son adoration. Après le thé, on arrangea diverses parties. Mesdames Ferrars et Jennings s'établirent à un grave whist avec Sir George et M. Palmer. Elinor en parut surprise. Le colonel Brandon, à qui son frère et sa belle-sœur avaient fait tant d'honneur, avait, dans son idée, plus de droit à cette partie, par son âge et son habitude au whist, que M. Palmer, qui, malgré son apathie, ne parut pas trop content d'être le partenaire des deux grands-mères. Mais M. Dashwood n'avait garde de séparer sa sœur Elinor de son futur époux, le colonel Brandon. Lady Middleton n'aimait que le casino, et le colonel ne le savait presque pas, mais n'importe, il fallut, bon gré mal gré, qu'il se mît à cette partie, ainsi qu'Elinor, qui aurait bien préféré rester avec sa sœur. Mais elle eut beau conjurer ou son frère ou Fanny de prendre sa place, elle ne put l'obtenir. M. Dashwood se mit à côté du colonel pour lui apprendre le casino. Anna Steeles fit le quatrième. Fanny se mit en cinquième dans la partie des mères. Lucy, tantôt à côté d'elle, lui parlait de ce qui pouvait lui plaire, tantôt à côté de Madame Ferrars, s'intéressait à son jeu, vantait son habileté au whist, et la bonne dame avait de grandes prétentions. Enfin, elle faisait sa cour de son mieux. Maria, abandonnée à ses tristes pensées, ne s'en plaignait pas. Absorbée dans ses réflexions, dans ses souvenirs, et bien loin du salon de Madame John Dashwood, elle n'entendit pas même ouvrir la porte et Fanny s'écrier « Ah, voilà mon frère !» Mais Elinor ne l'entendit que trop. Son sang reflua vers son cœur qui battit avec violence, et ses yeux baissés sur ses cartes, sans en distinguer une, elle s'efforça de reprendre son courage accoutumé. Enfin, quand elle crut y avoir réussi, elle tourna ses regards d'abord sur Lucy, dont la physionomie n'exprimait rien, mais dont les yeux perçants suivaient celui qui venait d'entrer. Elinor était placée de manière à ne pas le voir, et n'en était pas fâchée, lorsque son frère s'écrie « Ah, vous voilà enfin, Robert! D'où diable venez-vous? Nous avons dîné depuis 2 heures !» Elinor respire, ce n'est pas Edward. Robert s'avance auprès de son beau-frère, elle reconnaît d'abord le merveilleux à la boîte à cure-dents qu'il avait si fort impatienté chez le bijoutier. Sans doute, il la reconnut aussi. Il la salua avec affectation d'une inclination de tête. Son costume avait toute l'extravagance de la mode française, encore exagérée, et présentait vraiment quelque chose de très ridicule. Une crête ébouriffée, un col de chemise remontant jusqu'au coin des yeux, un frac étroit, un gilet de 2 doigts, un pantalon qui lui montait jusque sous les bras, un fracas de cachets et de bagues, un bouquet à la boutonnière, enfin tout ce qui constituait alors l'élégance des jeunes gens qu'on appelait des incroyables. L'émotion d'Elinor avait fait place à l'étonnement. Elle ne pouvait comprendre que ce fût là le frère du simple, du timide Edward. Il dit légèrement à son beau-frère que, sur sa parole, il avait tout à fait oublié son dîner, que, dans la foule de ses engagements, ses oublis lui arrivaient souvent, et promenant sa lorgnette sur les jeunes dames, il daigna ajouter « Sans doute, j'ai beaucoup perdu. Cette langoureuse beauté auprès de la cheminée, est-ce une de vos sœurs, John ?» en désignant Maria. « Oui, la cadette, très jolie autrefois, sur mon honneur, mais la pauvre enfant est malade. » Robert ne l'écoutait pas. Sa lorgnette était dirigée sur la jolie toque à plumes de Lucy. « Cette petite personne est délicieusement coiffée, » reprit-il. « Mais je dis délicieusement. Cela vient de Paris, je crois l'avoir remarqué au magasin d'Hudsley. Très jolie, sur ma parole, du dernier goût. » Et la jeune personne aussi, c'est Miss Lucy Steeles, parente de Lady Middleton. « Et Edward, où diable se tient-il ? » ?»« Où ? Je ne sais. Nous n'allons point ensemble. Il y a 8 jours que je ne l'ai vu. » Il s'approcha de sa mère, dont il était le favori, et qui lui dit « Bonjour, Robert !» avec un air assez affable. Il adressa quelques mots à Lucie sur sa délicieuse coiffure, dont elle parut très flattée. Peu après, les parties finirent et l'on prit congé les uns des autres, au grand plaisir des deux sœurs, pour qui la journée avait été ennuyeuse et pénible.